Radio Okapi.
Okapi Service avec Tati Mampoukou. Okapi.
Bonjour et bienvenue dans deux heures d'antenne d'Okapi Service, magazine des fêtes sociétés de Radio Okapi. Des sujets sont au menu de ce numéro, à savoir la problématique de la crise du logement en République démocratique du Congo et comment prévenir et se faire soigner du cancer de la prostate. Si ces sujets vous intéressent, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Par SMS, vos commentaires sont les bienvenus au numéro 099-506-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Nous attendons également vos témoignages et questions dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mampoukou, c'est moi qui anime et coordonne ces rendez-vous sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Naomi Moutoki réalise ces numéros. Pierre Diassinois s'occupe pour sa part de la prise de son. Et Jonathan Chimanga est à l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous d'Okapi Service. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment mettre fin à la crise du logement dans les zones urbaines de la République démocratique du Congo? Nous débattons ces sujets avec John Kabudibudi. Il est ingénieur BTP. Ingénieur John, bonjour et bienvenue dans cette tranche du magazine Okapi Service.
Merci Tati de l'invitation et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Et chers auditeurs et auditrices, si ces sujets c'est rapportant à la crise du logement en RDC, dans les zones urbaines de la RDC vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-506-9941. Appelez-nous, nous allons prendre soin de vous rappeler. Kinshasa, la capitale de la RDC, est passée de 400 000 habitants à près de 20 millions d'habitants, ce qui exerce une pression énorme sur l'offre des logements. La majorité des habitants des grandes villes telles que Kinshasa, Lubumbashi, Bukavu, Kisangani et Goma vivent dans des quartiers non planifiés, souvent exposés aux inondations, aux incendies et aux risques naturels. La nation congolaise accuse un déficit d'environ 4 millions d'unités de logements, avec une demande annuelle estimée à 265 000 à 450 000 nouveaux logements pour suivre la croissance démographique. Même s'il y a les booms immobiliers, l'urbanisme ne suit pas et il y a des conséquences, des érosions et autres. Alors, comment mettre fin à la crise du logement dans les zones urbaines de la République démocratique du Congo? Nous débattons de ce thème avec John Kabudibudi. Nous rappelons qu'il est ingénieur BTP. Ingénieur John, vous partagez ces constats avec nous, qu'il y a vraiment une crise assez prononcée du logement dans les zones urbaines de la République démocratique du Congo, commençant par Kinshasa.
Oui, merci mon frère Tati de m'avoir invité à cette mission très pertinente. En vous suivant, j'ai eu froid au dos, parce que la situation est amère et la situation est catastrophique de la façon que vous avez brosser les tableaux. Effectivement, je partage votre avis pour voir que nous avons un problème de logement presque partout dans toutes nos provinces de la République démocratique du Congo. Donc, je partage ce point de vue-là.
Vous êtes ingénieur dans les bâtiments. Quand vous arrivez à Kinshasa, quel est le premier constat qui se dégage concernant surtout l'immobilier, l'habitat?
Non, le premier constat, lorsque j'arrive à Kinshasa, je trouve que c'est une ville en principe qui n'est pas une ville. On parle d'une ville, mais ce n'est pas une ville. Je constate une catastrophe sans précédent qu'on ne rencontre nulle part ailleurs à travers le monde. Vous voyez ça? Parce qu'à partir du moment, lorsqu'on parle du développement, il faut tenir compte des superstructures et infrastructures. Quand je vois la façon que les gens vivent à Kinshasa, donc une ville non planifiée, ça pose des problèmes d'attitude. Donc, il faut savoir que cette crise a des causes. Il est très important et très capital, d'abord ici, dans cette émission, de pouvoir épingler quelles sont les causes qui ont amené à la crise des logements en République démocratique du Congo et quelles sont les causes qui ont fait en sorte que la ville de Kinshasa, que ce soit Mbujimayi, que ce soit Lubumbashi, pour la plupart des zones urbaines, soient des zones purement anarchiques. Il y a des causes.
Et lesquelles? Possible. Quelles sont ces causes?
Nous pouvons les évoquer ici, Tati.
On y va. Je vous le permets. Allez-y. Quelles sont les causes de cette crise de l'habitat, du logement dans les zones urbaines de la République démocratique du Congo?
Il faut d'abord comprendre ici, nous avons une croissance démographique galopante. Donc, c'est-à-dire que la population est en train d'augmenter d'une façon naturelle. Et à partir du moment où la population augmente d'une façon naturelle, ceci entraîne une demande élevée en logement. Et cette demande élevée de logement n'a pas d'offre. Il faut qu'il y ait l'offre de logement afin que cela soit compatible. De façon que lorsqu'il y a la croissance et qu'il y a l'offre, effectivement, le pays va se développer, va aller de l'avant, dans le sens que la population ne puisse pas manquer ou dormir. La deuxième des causes, c'est quoi? C'est l'absence de politique claire
de l'habitat
à ce qui concerne l'urbanisme et habitat. Nous avons l'impression que dans notre pays, il n'y a pas la politique claire sur l'urbanisme et l'habitat dans le pays. Parce que vous allez constater, vous et moi, avec tous les auditeurs qui nous entendent à cet instant, que dans notre pays, chacun construit de sa manière, les endroits sont lotis d'une façon pêle-mêle, parfois ce sont des chefs coutumiers qui donnent des parcelles aux gens, qui morcellent, qui font les lotissements.
Qui dessinent des avenirs,
qui délimitent
des
avenirs et autres. Donc, le manque de politique claire existe. Et ceci entraîne cette difficulté-là des crises de logement. Et en plus même de cela, il y a la difficulté d'accès aux fonciers. C'est-à-dire, pour avoir un endroit à construire, ça pose effectivement des problèmes. Même si vous avez l'endroit de construire, cet endroit-là n'est pas approprié. Parfois, on vous donne les endroits à construire dans des endroits purement marécagés, à haut risque, et ceci pose effectivement d'énormes problèmes dans notre pays. Et c'est ce qui entraîne effectivement à la crise de logement dans le pays. Parce que la politique n'est pas claire, la politique n'est pas définie. Mais du moins, nous avons le ministre d'Urbanisme et Habitat. Et celui qui est le patron de ce ministère-là, il doit amener le plan de projection sur l'habitat dans l'ensemble de notre pays.
En fonction,
dans le sens que,
en
même
fonction
si
de l'expansion démographique,
on puisse construire d'une façon harmonieuse pour que le pays arrive à se développer confortablement comme d'autres pays à travers le monde. Mais nous voyons qu'il y a un grand défaut. Un grand défaut. Voilà quelques causes majeures qui ont poussé, n'est-ce pas, à la crise des logements dans des zones urbaine dans notre pays. Bon. Et surtout aussi, faut pas oublier donc l'exode rural. Alors il y a des populations qui quittent donc les provinces parce qu'il n'y a pas d'emploi, parce qu'il n'y a pas à manger. Ils s'en vont dans des capitales, ils s'en vont dans des grandes agglomérations. Et ceci pose encore des problèmes. Ça crée aussi des problèmes de logement aussi. Voilà un peu brièvement quelques points qui causent, n'est-ce pas, la crise de logement dans notre pays, dans des zones urbaines.
Je reviens sur les trois aspects que vous avez évoqués. Il y a l'expansion démographique, il y a l'exode rural, il y a également l'absence d'une bonne politique de lotissement. Mais en termes de lotissement, s'il faut que je revienne là-dessus, quels sont les principes sur lesquels un lotissement se repose? Parce que nous, on voit souvent les gens, on dit qu'on a loti par exemple à Maluku et les gens se partagent des portions de terre par le trichement des chefs coutumiers. Et chacun érige et il s'arrange pour avoir sa maison et puis des avenues qui terminent en cul-de-sac.
Oui, Tati, laisse-moi te dire que le lotissement qui est fait et qu'on est en train de faire à cet instant même, ce sont des mauvais lotissements. Ce sont les lotissements qui ne répondent pas à des conditions d'un pays qui veut, n'est-ce pas, se développer durablement. Par conséquent, on est en train de détruire, de démolir les constitutions, non? On dit que ce sont des constitutions purement anarchiques. On est en train de démolir.
Exactement.
Mais tous ces gens-là, pour lesquels leurs parcelles sont en danger, leurs immeubles sont en danger, ils ont eu des titres fonciers, non?
Oui.
Voilà. Alors, pour arriver à lotir d'une façon confortable, il faut avoir, n'est-ce pas, un plan directeur. Un plan directeur que je peux vous dire ici, c'est un plan de planification urbaine et aménagement du territoire. Il faut avoir un plan urbain, c'est-à-dire, vous savez où est-ce que vous allez construire, où est-ce qu'on peut construire des routes, où est-ce qu'on va réserver les terrains pour les parcs, par exemple, où est-ce que les réseaux souterrains vont passer, des drainages et autres. Tout ça, on le fait en tenant compte des risques qui peuvent arriver. Aujourd'hui, Datati, même les inondations dont nous sommes en train de parler, c'est lié toujours au lotissement qui se font dans notre pays. Alors, étant donné que les lotissements qui se font dans le pays ne sont pas des véritables lotissements, tenant compte des risques qui peuvent arriver, on va aboutir à des situations catastrophiques, à des incendies, comme vous avez dit, à des embouteillages, comme on a dit, à des inondations, à des éboulements, à des ravins, à des maladies. Beaucoup d'histoires qui vont arriver. Pourquoi? Parce que la politique d'urbanisme n'est pas une politique purement appropriée. Donc, pour n'est-ce pas urbaniser une ville, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut tenir compte. Superstructure, infrastructure, drainage, évacuation des eaux, le plan d'assainissement, tout ceci, il faut prendre en considération. Mais ce n'est pas le cas dans notre pays, parce que nous voyons même, il y a même les routes de 4 mètres, non? Il y a les routes de 5 mètres, de 6 mètres. Mais si plus tard, on veut construire des fibres optiques, par exemple,
ça
on
va
peut
passer
faire
où?
Donc l'électricité, l'éclairage, la lumière publique, par exemple. On va le faire où? S'il n'y a pas l'espace pour le faire. Tout ceci entre en jeu dans les domaines, n'est-ce pas, d'urbanisation. Donc, on doit faire une étude appropriée, tenant compte de tous les éléments possibles qui peuvent intervenir dans le présent, même dans le futur, avant de faire, comment dirais-je, l'urbanisation d'une ville.
J'ai eu l'occasion de visiter un lotissement dans la banlieue parisienne à Dourdan, ingénieur, où j'ai vu des caniveaux étaient déjà érigés, des parcelles très bien délimitées, le supermarché était en train de pousser avant que l'on puisse commencer à distribuer des portions de terre à des particuliers qui étaient intéressés à avoir des lopins de terre pour construire. Donc c'est les modèles, c'est les principes en fait qu'il faut respecter en termes de lotissement.
Mais écoutez mon frère, quand vous donnez la parcelle à quelqu'un, là où il n'y a pas la connexion de l'eau, ce dernier construit la maison, il va boire quoi? Il n'y a pas même le réseau électrique là-bas. Il va et sera éclairé comment? Il n'y a même pas la route qui passe par là. Il va marcher comment? Donc, le système qu'il y a dans notre pays, c'est un système d'antiquité. Donc, ce que vous parlez là, c'est la modernisation, c'est la technologie moderne. Pour appeler à un pays comme étant un pays moderne, donc, lorsqu'on fait le lotissement, on tient compte de tous ces paramètres-là, dans le sens que la personne qui va habiter dans la maison puisse être dans de bonnes conditions. Avoir l'eau, avoir l'électricité, avoir les services de base, avoir l'hôpital, avoir l'école, avoir la route, tout ce qu'il fait avec. Mais on n'en tient pas compte dans notre pays. C'est ça le grand problème.
Comment mettre fin à la crise du logement dans les zones urbaines de la RDC, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, à Kisangani? Nous en parlons dans cette première partie du magazine Okapi Service. Et si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-506-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. Le premier auditeur prend la parole à partir de la ville de Bandundu. On dit bonjour à Monsieur Paty.
Bonjour, cher Paty. Bonjour à notre maire. Nous saluons le décor qu'il a planté. Ok. Cher Paty, nous estimons tous que... Quant à votre question, vous demandez pourquoi, en d'autres termes, si on peut reformuler ça, vous demandez pourquoi il n'y a pas assez de logements dans des grandes villes.
Il y a une crise, hein, il y a une crise de logement, même s'il y a des maisons,
Ne savent pas. Voilà. Le problème, c'est celui-ci. Vous savez, nous tous ici, les partis ici qui passons à vos zones d'ici, nous venons du village, non? Nous sommes venus envahir la ville de Bandundu ici. Nous avons fui nos villages. Pourquoi? Là-bas, il n'y a même pas de l'eau à boire. La première des choses, il n'y a pas de l'eau à boire. Nous n'avons pas de route pour voir du courant. Il faut qu'on vienne en ville, hein, pour voir un peu l'impiogi. Si vous savez, moi, j'ai connu l'impiogi quand c'est après des années, j'entendais seulement on parlait d'impiogi, jusqu'à ce que je vienne en ville pour que moi-même je voie l'impiogi. Donc, moi, j'avais une autre image d'impiogi. J'ai pensé que l'impiogi, ce sont des choses comme des galettes, comme, je ne savais pas que c'était les poissons. Voyez un peu ça. Dans nos villages, il y a un problème sérieux. D'où, la politique qu'on a dans ce pays, c'est une politique archaïque. Donc, une politique archaïque où on a des politiciens, ils ne savent pas que la force d'un pays, ce sont d'abord des villageois. Parce que ceux qui sont ouverts, ce sont ceux qui s'aiment, qui élèvent, qui doivent avoir des choses qu'il faut aller avec dans des grandes agglomérations pour nourrir. Mais juste le contraire, les villageois, les conditions qu'on leur a laissées, ne leur permettent pas. Tout le monde qui est au village cherche à quitter son village pour rejoindre Kinshasa. C'est là où maintenant, comme il y a une grande densité, il y a une démographie vraiment qui s'explose du jour au jour. Tenez-vous dans des points d'entrée. Vous allez trouver que ceux qui viennent pour venir à Kinshasa, ceux qui viennent entrer à Kinshasa et ceux qui sortent pour ne pas seulement quitter Kinshasa, même à Lubumbashi, à Bandunduville, dans des grandes agglomérations là, vous trouvez que ceux qui viennent sont nombreux par rapport à ceux qui veulent sortir. Vous voyez un peu ça? Mais quand tous nous venons là, tous nous quittons ici, nous venons chez vous là. C'est pour rester où? C'est là où nous nous retrouvons dans des conditions qu'on appelle entre guillemets les constructions anarchiques. Ce ne sont pas. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base, chers dirigeants, chères autorités? C'est vous que Dieu a placé pour diriger ce peuple congolais. Ça ne vous dit rien, ça ne vous demande pas. Quand vous voyez tout le monde là en train d'envahir les rues de Kinshasa, monter des sangs, vous lui demandez chez toi c'est où? Il n'a pas un chez lui. Il cherche dans des églises pour aller passer nuit, il passe nuit dans des vérandas. Vous ne pouvez pas leur demander pourquoi ces gens ici viennent ici. C'est ça, les villages. Au village, il n'y a rien à manger. Nous avons fui les villages pour venir ici. D'où nous demandons à nos autorités, si réellement ils reconnaissent que c'est Dieu qui les a placés là, qu'ils pensent à revaloriser nos villages.
Oui, mais Monsieur Paty, il y a eu la décentralisation. La décentralisation pour que chaque province, petite soit-elle, s'organise pour développer l'arrière-pays. Vous ne pensez pas que c'est une avancée?
Mais cette décentralisation, parlons-en, la rétrocession, comment se fait-elle? Est-ce qu'on rétrocède ce qui était dit? Mais on n'a pas un problème de loi dans ce pays, cher Tati. Vous ne venez pas de débarquer ce matin ici au Congo. Hein? Ce n'est pas un problème de loi. La décentralisation, oui, c'est écrit dans la Constitution. Mais sur les plans pratiques, il y a quoi? Notre province comme la nôtre ici, Kouilou ici. Mais il y a à voir. C'est quand on apprend que les personnes veulent venir. Je peux vous envoyer des images. Il faut voir comment on fait des tripotages. On cherche à arranger des routes. Hein? Donc, un bricolage. Des choses sont brites. Mais il y a un problème sérieux dans ce pays, cher Tati. Merci beaucoup, je vous remercie.
Merci beaucoup, hein. Excellente journée au niveau de la ville de Bandundu. Nous partons cette fois-ci à Kisangani pour donner la parole à Monsieur Blaise. Bonjour.
Bonjour, cher Tati. Bonjour à l'invité, ainsi que auditrice et auditeur de la Radio Capi.
Bonjour.
Cher Tati, étant donné que la thématique elle est très intéressante, comment mettre fin à la crise de logement dans les zones urbaines de la RDC. Partout aujourd'hui en RDC, il y a de nouvelles cités. Mais il y a toujours problème. Et ces problèmes, je ne sais pas, nous pouvons qualifier tout seul, nous pouvons toujours jeter la balle à nos autorités, puisqu'ils détiennent les textes. Elle détient des textes, pardon, mais il y a problème d'applicabilité des textes. Comment il y a une création d'une cité, la cité n'a pas une école, la cité n'a pas un marché, c'est un problème trop sérieux. Cher Tati, une contribution à ce qui concerne cette thématique, à mon avis, la crise du logement en République démocratique du Congo vient surtout du manque d'organisation et de contrôle dans la gestion du foncier et de l'urbanisme. Tant que l'État ne modernise pas la planification des villes, ne sécurise pas les parcelles et ne favorise pas la construction des logements abordables, la situation restera difficile. Avec une volonté politique claire, une meilleure coordination entre les autorités et l'implication du sécurité privée, pardon, du secteur privé, il est possible d'améliorer réellement les conditions de vie urbaine et d'offrir des logements dignes à la population.
Monsieur Blaise,
je dois aller tout juste à des questions.
S'il vous plaît, oui, avant de poser ta question, il y a des entités habilitées à gérer l'urbanisme et l'habitat au niveau national et provincial. Vous le savez, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Alors,
c'est ce que j'ai dit que non. Nous avons plus de problèmes d'applicabilité des lois. Il y a les chefs de division de l'urbanisme. Il y a les ministres des plats. Cher Tati, les textes sont là. Il suffit seulement d'appliquer les conditions normales. Aujourd'hui, il y a des conflits trop sérieux dans des problèmes fonciers. Rappellerez-vous bien le cas de Kisangani, le conflit Mbole et Lengola. C'est toujours les conflits fonciers.
Oui.
Voilà, je pars vite à quelques questions.
Allez-y.
La première, dans quelle manière peut-on assurer que les programmes publics de logement profitent réellement aux populations les plus vulnérables? Deuxième question, comment concilier la croissance démographique rapide et le développement urbain durable? Troisième question, quelles réformes prioritaires devraient être entreprises pour moderniser le logement dans toutes les villes de la RDC? Pour citer,
oui.
Le logement social est-il réaliste et durable dans le contexte économique actuel dans notre pays? Je me limite à ce niveau de question, cher Tati.
Merci beaucoup et excellente journée, cher Blaise, parmi les auditeurs fidèles des Radio Okapi. Excellente journée au niveau de la ville de Kisangani. Ingénieur John, à vous la parole.
Vous pouvez me je n'ai pas compris, bien saisi toutes ces questions. Vous pouvez les rappeler comme ça. Je peux intervenir.
On commence par Pati Mayimba de Bandundu qui a déploré le fait que si les gens viennent se tasser dans les grandes villes, s'il y a la massification de la population dans les grandes villes du pays, c'est parce que l'arrière-pays est oublié et les gens se sentent à l'aise dans les grandes villes. Voilà pourquoi il y a une démographie assez galopante. Si les régions, l'arrière-pays était développé, les gens n'allaient pas venir nombreux dans les grandes villes.
Il a complètement raison. Mais Tati, dans ce pays-là, il y a un problème. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai toujours insisté. Par exemple, quand vous prenez le ministère des plans, vous donnez à quelqu'un qui est, par exemple, juriste ou quelqu'un qui a fait l'économie, il va faire quoi dans ce pays-là? Avec tout ce qu'il y a comme problème dans le pays, avec tout ce qu'il y a comme difficulté dans ce domaine-là, aujourd'hui, tout ce que nous avons ici, les problèmes de logement, les problèmes de construction anarchique, vous savez que c'est dans quel domaine? Mais c'est dans le domaine des plans.
Oui.
Il y a quelques ministères qui entrent en concert pour résoudre ces problèmes.
Oui, en priorité, c'est
les
plans.
Mes amis, est-ce que tout le monde doit quitter au fin fond du Kasaï pour aller à Kinshasa?
Non.
Mais parce qu'ils sont oubliés.
Oui.
Ils sont oubliés pourquoi? Parce que les autorités qui sont censées concevoir un plan de développement durable ne sont pas à mesure. Pour la plupart, Tati, laissez-moi vous dire, c'est sur la radio Capi, la plupart sont des incompétents. Mes amis, placez la personne au poste qu'il peut résoudre les problèmes de la population. Ça, c'est très important. Vous avez le rôle du ministère des plans. Le ministère des plans anticipe les événements. Il voit les risques. Le ministère des plans fait les études de risques qu'il y a dans le pays. Et surtout même les problèmes ici de la démographie dont nous sommes en train de crier aujourd'hui. Alors, le ministère des plans devrait déjà contourner les problèmes de la démographie et mettre en place une politique de logement. Mais en collaboration, bien entendu, avec d'autres ministères qui sont frappés dans les domaines comme le ministère des titres fonciers, le ministère des superstructures, infrastructures, urbanisme, habitat. Mais Tati, posons-nous des questions. Même à Kinshasa, là, l'État congolais a construit où? L'État congolais a des logements où? Où est-ce que l'État a construit à Kinshasa?
L'État congolais, je ne connais pas à ma connaissance, mais il y a des logements Onel par le passé qu'on retrouve à Lemba, à Banda, à Kaouka.
Voilà, vous parlez de Onel à l'époque des Belges. Nous n'étions pas encore nés. À l'époque, vous parlez de Belges, Onel. Aujourd'hui, nous sommes 2025.
Oui.
Alors, est-ce que nous avons une vision de projection de ce pays ou pas? C'est pourquoi la population est en train de quitter par-ci, par-là, et s'entasse à Kinshasa. Même à Kinshasa, où les gens viennent là, il n'y a pas donc, il n'y a pas l'offre. Il n'y a pas un projet donc d'avenir pour construire les logements. Or, c'est de la responsabilité de l'État. Oui, bien entendu, dans ce domaine-là, il y a aussi des privés. Donc, il y a des projets privés aussi qui peuvent se faire. Mais en première position, c'est l'État congolais qui doit donner le temps, qui doit donner l'ego, donner les principes, donner l'itinéraire pour que les gens puissent marcher là-dessus. Vous voyez ça?
Donc, l'autre ami, oui, mais,
il a parlé, quel type de réforme faudra-t-il faire? Je pense que c'est ça.
Exactement. Et moi, il y a une question qui me traverse l'esprit parce que vous achetez une parcelle 20 mètres sur 20 à Kingasani. Quand vous venez acheter dans la commune de Lemba, par exemple, 20 mètres sur 20, le prix n'est pas le même. Donc, alors que la superficie, c'est la même. Ça, c'est aussi un problème.
Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a pas ce qu'on appelle extension planifiée. Il faut avoir ce qu'on appelle l'extension planifiée. Alors, si les activités qui sont à Lemba sont à Kingasani, personne ne quittera Kingasani pour aller à Lemba. Voilà. Mais tout ça, ça ça incombe à la responsabilité de l'État qui doit réglementer dans ce secteur-là. Mais quand nos frères qui ont des responsabilités, qui sont des ministres, qui siègent même avec les chefs de l'État au conseil des ministres, moi je ne sais pas quel type de rapport ce dernier amène au conseil des ministres. Dans les domaines surtout d'urbanisme et habitat, l'État congolais n'a construit nulle part au Congo. Je dis bien nulle part. Et maintenant les Congolais vont habiter où? Et d'ailleurs, même les privés qui construisent, ils construisent de leur manière, de leur façon, de leur goût. Kinshasa n'a pas de beauté, Lubumbashi n'a pas de beauté, Mbujimayi n'en parlons pas, Bandundu catastrophe, Bakongo pitoyable. Alors, nous partons où avec ce pays-là? Le frère a posé la question, quelles sont les réformes? Les réformes, ceux qui font des réformes, ce sont des personnes. Commençons d'abord à faire les réformes, de placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, s'il y a des personnes qui sont compétentes dans un domaine donné d'urbanisme et habitat, ces gens-là vont venir avec leurs compétences pour faire la réglementation dans ces domaines-là. Vous voyez ça? Parce qu'aujourd'hui, même pendant que je vous parle, Tati, il n'y a pas donc le plan d'occupation du sol. Il n'y en a pas. Tout ceci, ce sont des réformes qu'il faut mettre pour mettre les choses à jour afin que le pays puisse avancer et fonctionner convenablement.
Et Saïdi, Saïdi voulait savoir comment concilier développement durable avec l'habitat, avec tout ce que nous sommes en train de vivre. En même temps aussi, même en termes d'accès au logement, les pouvoirs d'achat de la population n'est pas à la hauteur d'occuper, d'avoir par exemple un logement social.
Mais Tati, là-bas, ce que vous parlez là, c'est un grand souci. Il y a ce qu'on appelle marginalisation sociale. Le logement décent devient un privilège réservé à une minorité, créant davantage les inégalités
sociales. Oui, ça c'est
vrai. Alors il y a c'est le pouvoir d'achat par rapport à la souffrance qu'a les Congolais. Un Congolais ne peut pas louer une maison, par exemple, de 3 chambres-salon. Il ne peut pas. Parce que le pouvoir d'achat. Tout ça, ce sont les choses qui impactent.
Alors qu'il a des filles et des garçons.
Le frère parle de comment concilier donc les développements durables avec ce que nous vivons. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on parle du développement durable, on doit tenir compte même de la génération future. Et dans le développement durable, il y a ce qu'on appelle les études de gestion des risques. Étant donné que tout ce que nous faisons, nous n'épinglons pas les risques qui se trouvent dedans, et par conséquent, nous sommes loin de ce qu'on appelle le développement durable. Je ne sais pas si le Congo est un pays développé, donc je ne peux pas le dire.
Ou en voie de développement.
Je ne pense pas que nous sommes en voie de développement. Pour parler que nous sommes en voie de développement, il faut qu'il y ait les réglementations dans tous ces domaines. Dans tous les domaines, il doit y avoir des réglementations. Et ces réglementations-là n'existent pas dans notre pays. Donc c'est difficile et c'est aberrant de dire que nous sommes un pays en voie de développement. C'est ça, c'est aberrant.
Nous retournons au standard cette fois-ci pour donner la parole à Trésor Chimba qui nous appelle depuis la province de la Lomami. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'Okapi Service.
Bonjour Monsieur Tati, bonjour à Monsieur John. Je suis plutôt à Kamina dans la province du Lomami.
Ah d'accord, à Kamina. On vous donne la parole.
Voilà, j'applaudis à main levée les interventions de l'invité et je les félicite pour ce combat qu'il est en train de mener. Et quant aux autorités, je sais qu'elles seront à même d'écouter, ou ce n'est ni même pas d'ailleurs la première ou la dernière fois que de telles émissions seront produites pour donner quand même notre contribution à l'édification de ce pays. Seulement dans le liminaire de mes propos, mais Tati, permettez-moi d'être aussi direct avec l'invité quand il nous parle de la théorie de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Soyez-en sûr que c'est une thématique que nous avons, une rhétorique que nous avons déjà entendue dans ce pays ici. Et dans tous les ministères là-bas, les ministres qui soient juristes, économistes, consorts, ils vous diront qu'ils ont des conseillers experts. Donc nous avons des gens qui ont étudié, et malheureusement ce sont ces professeurs, ce sont ces docteurs, ce sont ces ingénieurs qui rendent des mauvais services malheureusement à la nation, parce que, bon, voilà, avec tout ce qui se passe. Déjà le deuxième point, vous allez vous rendre compte que M. Tati, parlant de tout ce qu'il y a comme de logement, surtout ce sont les grandes villes qui posent un peu ce problème. En l'occurrence, c'est Kinshasa, Lubumbashi et tout. Vous vous rendez compte que les villes sont saturées. Et qu'est-ce qui nous pousse même à intervenir dans ce sens? C'est parce que nous entendons ce qui se passe là-bas, démolition des constructions anarchiques, inondations et tout ce qui va avec. Voilà. Ça, ce sont deux points. Maintenant, bon, je me dis, tout est déjà fait. Vous allez dire, bon, construire des nouvelles cités ou des nouvelles villes, ça c'est bien. Mais quand est-ce que ces plans va venir? Est-ce que les Congolais continueront à attendre que des nouvelles cités, des nouvelles villes soient construites pour qu'ils aillent habiter là-bas? Je pense que c'est une bonne proposition, mais qui n'est pas qui ne tombe pas au point nommé. Maintenant, ma question, elle est nette à l'invité. Monsieur l'ingénieur, c'est vraiment de vous, c'est vraiment des personnes comme ça que nous avons besoin dans la société. À votre place, on vous donne le ministère de l'urbanisme et habitat. Monsieur l'ingénieur, quel est le plan immédiat que vous allez donner pour redresser la situation des logements dans toutes les villes à problème? D'abord, dans toutes les villes à problème, quel est votre plan immédiat de redressement des situations de logement dans toutes les villes à problème? Je m'arrête là, monsieur.
Merci beaucoup, monsieur Chiba Trésor. Excellente journée. Question directe. Ingénieur, comment répondez-vous à monsieur Chiba?
Merci à l'intervenant et merci à Tati. Tati, laissez-moi vous dire que vous m'avez présenté comme un ingénieur. Je suis un ingénieur de l'IBTP. Je fais des études complémentaires et approfondies ici en Suède. Je suis un ingénieur projecteur, je suis un consultant en prévention d'incendie, Tati. Je suis un cadre d'une des grandes entreprises ici en Europe. Je dis bien, je suis cadre d'une des grandes entreprises ici en Europe.
En Suède.
Donc, ceux qui construisent l'Europe ici en Suède, je suis un des Congolais parmi ceux-là qui travaillent ici. Mon frère, vous avez posé une question pertinente. D'abord, vous avez parlé, lorsque je parlais de placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut, les ministres disent qu'ils ont des conseillers. Vous voyez, il y a un problème, mes amis. Écoutez-moi, ça c'est très important. On ne peut pas prendre un ministère comme le ministère d'urbanisme et habitat, donné à un juriste, dire que non, il est universitaire, il sera entouré des experts.
Des techniciens, des experts.
Ça ne marche pas. Ça n'ira pas. Non. On peut être entouré des experts, mais si toi-même, ministre, tu n'es pas expert dans ce domaine, tu auras des problèmes. C'est ça les grands défauts qu'il y a dans ce pays. Dans notre pays, Tati, permettez-moi de donner un peu le temps, je répondrai à la question de mon frère, mais laissez-moi un peu vaguer un peu dans ce sens ici.
D'accord.
Dans notre pays, là, nous avons le ministère de la justice. En aucun cas, on a pris, par exemple, un docteur pour le placer ministre de la justice. On ne peut pas prendre un journaliste, le placer, on prend toujours les juristes, quelqu'un du domaine. Toujours, d'habitude.
Oui.
Même le ministère de la Santé, on prend toujours les docteurs. Mais aujourd'hui, le pays souffre. Pourquoi? Parce que tous les ministères techniques qui demandent des techniciens, qui demandent des ingénieurs, qui demandent des planificateurs, qui demandent des projecteurs, ces ministères-là, on met les historiens, on met les juristes, on met, c'est pas moi qui que ce soit, les gens qui ne sont pas chevronnés dans le domaine. Mon frère, je reviens à votre question. Tu dis que si on me donnait donc la chance d'être ministre d'urbanisme et habitat, je vais faire quoi?
Oui.
La première des choses, on me nomme aujourd'hui et le soir, je vais parler. Je dis quoi? Qu'est-ce que je vais parler? Je vais dire qu'à partir d'aujourd'hui, personne ne doit construire. Tout le monde qui est en train de construire doivent arrêter leurs travaux de construction. Ils doivent venir dans mon bureau avec leur autorisation de bâtir. Mais les gens qui sont en procédure de morcellement des parcelles, je leur interdis de morceler les parcelles. Donc, ça, c'est la déclaration que je fais directement après ma nomination. J'interdis le morcellement directement après ma nomination. Et tout le monde qui est en train de chercher l'autorisation de bâtir, moi-même, je veux contrôler ça. Et en plus de cela, qu'est-ce que je veux faire? Je veux commencer à réglementer le système d'urbanisme et habitat, la réglementation. Quand il n'y a pas la réglementation faite, il n'y aura rien. Réglementation, c'est quoi? Je veux créer les normes, les principes, les règles liées à l'urbanisme et habitat. Il faut réglementer, même dans trois mois, je serai bien entouré avec une équipe, nous travaillons sur la réglementation, et c'est fini. Nous allons sortir les lois, proposer même au gouvernement, dans ces domaines, ça, et en plus de cela, nous commençons à projeter les projets. Parce que Kinshasa souffre de quoi? Est-ce que, pourquoi pas à Kinshasa, nous n'avons pas de construction à niveau? 4 étages, 5 étages, 6 étages, par exemple. Mais aujourd'hui, tous les terrains, tous les sols congolais, à Maluku, presque partout, sont pris par les particuliers, non?
Oui.
En train de construire en vrac. Pourquoi ça?
Des maisons basses, des maisons en hauteur.
De la vision dans les domaines d'urbanisme et habitat. Je travaille ici, nous sommes en collaboration avec la commune, avec les financiers, avec ceux qui s'occupent des titres fonciers. Nous voyons ce qui se fait ici en Europe et nous pouvons le faire dans notre pays pour que le pays arrive à se développer. Voilà, je crois avoir répondu à votre préoccupation.
On retourne au standard, ingénieur. On va donner la parole cette fois-ci à Eminent qui veut intervenir de Bukavu. Monsieur Eminent, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour Monsieur Kati et bonjour à l'invité, bonjour à Madame Mami et à tous les auditeurs de Radio Kati. Je profite aussi de cette occasion de saluer aussi Madame et bonjour qui est en train de nous suivre.
Allez à l'essentiel s'il vous plaît, allez à l'essentiel.
Oui, je sais très bien que Monsieur Kati, la thématique d'aujourd'hui est très importante parce que dans ce domaine-là il y a beaucoup de désordres. Je sais très bien que pour trouver la solution à ça, il faut d'abord mettre en place une politique nationale de l'habitat, élaborer une vision claire à long terme du développement urbain.
L'invité a déjà évoqué ces aspects, s'il vous plaît. Monsieur Eminent, vous avez des questions spécifiques à poser à l'invité?
J'ai des questions, oui.
Allez-y,
j'ai des
questions allez-y, à poser directement, à allez-y directement aux questions.
Oui, ma première question à poser à l'invité est de savoir... Comment renforcer les institutions d'urbanisme et habitants dans les provinces? Parce que nous savons très bien que pour que cela soit une réalité, il faut que ces institutions là-bas travaillent comme il y a encore des cacophonies entre le ministère de l'habitat, il y a des cacophonies entre les d'autres services là qui militent pour que les conditions de logement soient au moins respectées. D'abord, ma première question est de savoir comment renforcer ces institutions là pour qu'elles travaillent en bonne et due forme. Ça c'est ma première question. La deuxième question est de savoir comment maîtriser l'urbanisation dans cette période où le monde est en évolution perpétuelle. Parce que nous savons très bien qu'il y a des villes qui étaient conçues pour accueillir autant d'habitants, mais actuellement, ces villes-là ont triplé, voire même quadruplé ces effectifs-là. Maintenant, comment maîtriser cette situation là-bas, parce qu'on ne peut pas dire que les habitants ne puissent pas s'accroître, mais il faut qu'il y ait une politique pour bien maîtriser ça. Il fallait que l'invité nous aide à nous donner des précisions quant à ça. La troisième question, avant de chuter, monsieur Etati, je voulais aussi savoir quel est l'impact de la modernisation sur l'habitat. Parce que la modernisation aussi joue une influence négative sur les conditions d'habitat. Il y a des pratiques qui n'étaient pas vraiment acceptées dans telle ou telle autre coutume. Je vous donne l'exemple par exemple de ma coutume, soit Lega, où il est interdit de passer nuit dans une même maison avec votre belle sœur. Mmh. Mais quand nous sommes dans certaines conditions, il y a au moins cette léthargie là-bas. Alors l'invité nous aide à nous donner des éclaircissements, soit des réponses claires de comment on peut adapter l'évolution, soit la modernisation à ce que connaît le pays, plutôt soit les villes de grandes agglomérations. Parce que pour citer, je voulais dire ceci, la fin des crises de logement passe par d'abord la planification, la volonté politique, la mobilisation des ressources et l'implication.
Merci beaucoup, M. Eminent. Excellente journée au niveau de la ville de Bukavu. Optez pour le principe de concision, s'il vous plaît, parce que les temps se gagnent vite. Je me tourne vers vous, M. Franck. Vous êtes à Vienne, en Autriche. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour à vous tous et bonjour aussi à l'invité.
Bonjour.
Oui, moi, le problème qui se pose ici, c'est un problème qu'on devait chercher à résoudre en amont. Et on l'a toujours dénoncé à travers beaucoup d'émissions, mais malheureusement, nous avons des politiciens qui ne sont là que pour eux-mêmes. L'invité est en train d'évoquer des aspects qui sont réels et vrais, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup... il n'est pas au sein du gouvernement, il peut donner, prodiguer des conseils, mais la question, c'est de savoir qui va appliquer tous ces bons conseils qu'il est en train de prodiguer à travers cette émission. Et la politique, dans la politique, gouverner, c'est prévoir. Mm. Mais chez nous, pour la politique, c'est seulement chercher à occuper des postes pour se satisfaire les restes des problèmes sociaux. Ça ne concerne ni les dirigeants, ni qui. Et parfois, on émet des avis sur vos zones, mais personne ne les prend au sérieux. C'est comme ça qu'on est en train de faire du surplace. Donc, pour être plus bref, je crois que pour la RDC, tout ce qui manque, c'est seulement un peu de bonne volonté politique, un peu de détermination et vraiment du patriotisme pour aimer véritablement ces pays pour lesquels on fait autant de déclarations publicitaires. On aime ces pays, je suis ministre pour la nation, alors que la plupart de nos ministres ne sont là que pour leur ventre. Je crois m'arrêter là.
Merci beaucoup, M. Franck. Excellente journée. Je me tourne vers vous, ingénieur John Kabidibwidi. Nous rappelons que vous êtes ingénieur BTP. On vous donne la parole.
Merci beaucoup, Tati, de me retourner encore la parole. L'intervenant qui a intervenu, il a posé la question de savoir comment faire pour renforcer les services
existants
d'urbanisme dans le milieu urbain. Dans le milieu urbain ou dans des zones urbaines, pour renforcer l'urbanisme, il faut passer par la formation. Parce que d'ailleurs même, nous avons un problème dans notre pays. La plupart des gens qui travaillent à l'urbanisme là, parfois ce sont des vieux papas qui n'ont pas été dans l'école, qui ne connaissent même pas l'urbanisme, c'est quoi?
La topographie.
Alors, tous ces gens-là, il faut les former.
Oui, tout à fait.
Il faut aller dans des milieux urbains, dans nos provinces, former les gens qui travaillent dans l'urbanisme et habitat. Parce que parfois, ce sont eux qui donnent donc la permission, donc autorisation de bâtir, ainsi de suite. Alors, pour renforcer les services d'urbanisme dans le milieu urbain, il faut passer par la formation. Il faut créer des formations pour former les gens. La deuxième question, il a posé comment maîtriser les services d'urbanisation, comment les maîtriser à l'heure actuelle par rapport à tout ce qui se passe au pays. Pour maîtriser à l'heure actuelle, c'est ce que j'avais dit ici, il faut passer par la réglementation vite, plus vite que possible. Il faut commencer à réglementer les secteurs d'urbanisme et habitat et donner des injonctions strictes là-dessus, rigoureuses. Et parfois même interdire certaines choses à pouvoir être faites dans ce pays-là. C'est comme je disais ici, interdire aux gens qui font les morcellements, l'air directement interdit catégoriquement, sans passer à autre chose. Et passer à ce que j'appelle moi la réglementation. Mettre de l'ordre dans ces principes-là. Dans moins de 3 mois, on peut travailler et commencer à mettre en application c'est ce qu'on va travailler. Là, on peut maîtriser les systèmes d'urbanisation. La troisième question, il a parlé de l'impact de modernisation. Vous voyez, quand on moderne, quand une ville est moderne, d'abord, les conséquences que nous avons, certaines maladies que nous avons au Congo là, nous avons beaucoup de maladies, des Ebola, nous avons des amibes, tout ça. Toutes ces maladies-là proviennent de quoi? Il y a des maladies qui proviennent par manque de logement.
Oui.
Il y a les gens qui dorment dans des conditions mauvaises. Il y a des maisons qui suintent. Il y a
mal aéré parfois.
Sont humides. Et une fois modernisées dans ces secteurs-là, les gens peuvent vivre longtemps. La vie sera aisée. Donc, il y a l'impact de la modernisation. Lorsque nous commençons à moderniser notre pays, il y a l'impact même sur la vie sociale, même sur la circulation, même sur le point même de l'économie. Ça va se passer très bien. C'est comme par exemple, nous avons une ville à Kingasani ou bien à Maluku. Quelqu'un ne quittera pas Maluku pour aller en ville là-bas pour faire les achats. Vous voyez que non, sur le plan économique, l'économie va marcher. Donc il y a toujours un impact positif si nous arrivons à moderniser donc le secteur du urbanisme habitant. Voilà un peu les éléments de réponse par rapport à sa préoccupation.
Donc, en conclusion, ingénieur, nos villes, nos grandes villes, Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Bukavu, ne répondent plus aux critères d'une ville?
Non. Ça, mon ami, dire que ça, ce sont des villes, et moi, je ne sais pas. Vous parlez de ville parce qu'on a, vous voyez une grande maison, ou bien on a conçu un immeuble. Mes amis, je l'ai toujours dit que la plupart des constructions qui sont faites en République démocratique du Congo, ce sont des constructions anarchiques. Parce que jusque-là, dans notre pays, nous n'avons même pas les codes des bâtiments. Si je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qui est dit pour construire une cuisine? Comment doit être une cuisine? Voilà, personne ne me dira.
Aucune norme n'est éditée.
Et il n'y a pas les termes de référence.
Non, chacun le fait à sa manière.
Comment vous allez parler de ville? Vous parlez de ville parce qu'on a mis les carreaux à l'extérieur, parce qu'on a mis les toitures type, c'est pas moi, japonaise ou quoi que ce soit. Donc, nous n'avons pas de ville. Nous avons des villes qui sont des villes bidons, qui sont les villes non modernisées, qui ne sont pas des villes appropriées. Effectivement, nous devons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aider ce pays-là à se développer convenablement.
En conclusion, ingénieur John Kabudi-Budi, nous rappelons que vous êtes expert en BTP. En conclusion, que devons-nous retenir sur ce sujet parce qu'on est presque à la fin de cet entretien? Les recommandations.
Nous sommes à la fin de cet entretien, Tati, merci de l'invitation. Mais laissez-moi vous dire, ce que nous devons retenir est que nos politiques doivent avoir la politique claire sur l'urbanisme et habitat. Parce que c'est la politique qui dirige ces domaines-là. Vous voyez ça? Par exemple, en ce qui concerne les titres fonciers, le ministre qui s'occupe des affaires foncières doit avoir une politique claire. Vous voyez ça? Il fait quoi? Ça se passe comment? Parce que nous voyons les chefs coutumiers qui donnent les 20 mètres fois 20, 15 fois 15. Ça doit être clair et ça détruit donc le développement de notre pays. Donc,
la politique claire... Et le prix au mètre carré n'est pas connu.
...urbanisme et habitat dans notre pays. Et puis, donc, il faut chercher à faciliter l'accès aussi, à des crédits pour des privés qui peuvent construire aussi. Il faut qu'il y ait la facilité là, d'avoir les crédits pour que les privés peuvent s'associer dans un groupe. Ils peuvent aussi ériger ou bien construire aussi. Ça peut aussi aider dans les domaines, n'est-ce pas, du logement.
Ingénieur
voilà
John,
ce que je peux dire.
Merci beaucoup, ingénieur.
Le plus grand problème, c'est l'élaboration d'un plan directeur.
Merci beaucoup.
Urbain.
Merci beaucoup, ingénieur John.
C'est le ministère qui doit faire cela.
Merci beaucoup, ingénieur John Kabudi-Budi. Nous rappelons que vous êtes ingénieur BTP. Merci d'avoir été avec nous et excellente journée.